Ésaïe 8, verset 23 à 9, verset 6, page 785-786. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrées aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers.
Il est question dans ce passage d'une espérance de paix sur la base de plusieurs témoignages qu'on a de la Première Guerre mondiale, des débuts de la Première Guerre mondiale. On sait qu'au au petit matin plutôt du 25 décembre, tous les mots partent de travers, mais j'espère que la suite va aller plus clairement. 25 décembre, normalement 25 décembre on n'oublie pas, mais c'est Noël donc, près de Ypres, dans les tranchées des soldats alliés, on entend au loin les soldats, les positions ennemies, les soldats allemands, chanter Stille Nacht, Heilige Nacht, merci, en allemand, voici Noël. Et par la suite, les alliés découvrent qu'il y a sur les tranchées des sapins de Noël qui ont été mis tout au long. Et c'est par la suite des colonnes de soldats allemands qui vont sortir des tranchées pour aller à la rencontre des soldats britanniques et les invitent à les rejoindre dans le No Man's Land. Les deux camps vont effectivement se rencontrer, ils vont échanger, discuter entre eux, et ils vont s'échanger des cadeaux. Et même le lendemain matin, faire un match de foot sur ce No Man's Land. Un chanteur d'opéra, le ténor Walter Kirchhoff, à ce moment officier d'ordonnance, va chanter. Et les Français, les soldats français qui entendent cela vont applaudir, chaudement applaudir, et il va chanter à nouveau. Mais l'état-major, lorsqu'il entend tout cela, va ordonner qu'on tire avec l'artillerie, pour disperser les troupes. Et tous ceux qui ont été dans ces trêves vont être séparés et mutés dans des zones de conflit beaucoup plus difficiles pour que cela ne se reproduise plus. Il y aura peu de photos qui vont échapper au tri qui sera fait par les états-majors, en particulier allemands et français. C'est seulement quelques photos qui vont aller du côté des Britanniques, qui vont sortir dans les journaux. Les médias français et allemands ne vont pas en parler. Mais il y a bien des témoignages qui nous viennent et un film qui a été fait sur ce sujet, Joyeux Noël. Des trêves comme celle-là, il y en a bien eu en 1914. Il y en a bien eu. Mais les tirs ont repris. L'artillerie a repris. Et en tout, ce sera plus de 18 millions de morts pour la Première Guerre mondiale, sans compter les blessés, les disparus. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Il y aura la deuxième. Et pour ceux qui se réjouissent du fait qu'il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale, on estime quand même qu'il y a eu plus de victimes de conflits depuis 1945 que dans tout le reste de l'histoire réunie. Il y a eu beaucoup d'autres morts. Mais dans les versets 5 et 6, il est question d'un prince de la paix, d'une paix sans fin. Comment est-ce que l'auteur, Ésaïe, peut parler de cette paix? Alors on va se poser deux questions. Comment décrire l'espérance, cette espérance de paix? Et ensuite, comment expliquer l'espérance? Comment décrire l'espérance? Comment expliquer l'espérance? On trouve dans un premier temps une description, et c'est la question « comment décrire l'espérance » qui nous intéresse. Dans le contexte, on parle ici de ténèbres, et remarquez que même dans les livres, même dans les films, les ténèbres, c'est un bon moyen de décrire un contexte difficile. Vous pouvez penser à la guerre des étoiles, vous pouvez penser au Seigneur des Anneaux, mais à n'importe quel livre ou film, il y a dans les ténèbres une bonne symbolique pour décrire quelque chose de difficile. Mais c'est intéressant de relever que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 5 par exemple, les ténèbres, elles servent à la fois à décrire le mal à l'intérieur, la manière de vivre du peuple, 5-20, mais aussi la menace à l'extérieur, la menace des puissances étrangères. Et dans le contexte ici, depuis la mort de Salomon, le royaume d'Israël est divisé en deux, royaume du nord, Israël, encore appelé Israël, royaume du sud, Juda. Deux royaumes se sont enfoncés dans un marasme moral, ils ont renoncé à l'alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu, ils se sont appuyés, à la place de ça, sur d'autres alliances, parce qu'ils sont dans la crainte. Et dans cette crainte, ils ont aussi besoin de consulter des médiums pour savoir ce qui va se passer. Ils doivent écouter des conspirations et se joindre à d'autres alliances. Et la grande puissance du moment, c'est l'Assyrie. Elle veut, l'Assyrie, dominer la région. Elle a des vues sur toute la région. Et ils sont connus, ces Assyriens, ces soldats assyriens, pour leur cruauté, leur férocité. Il y a donc des ténèbres à l'intérieur, le peuple qui s'est détourné de Dieu, mais ténèbres aussi à l'extérieur. Et dans notre texte, c'est intéressant de relever qu'il est question du territoire de Zabulon, de Nephtali, de la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. Et tout ça, ça dit la réalité de ces ténèbres. Parce que ce sont des régions qui ont déjà goûté à l'invasion, c'est les premières régions envahies. Entre 734 et 732, elles ont été envahies par les Assyriens, justement. Et quand il est question de la Galilée à la population étrangère, ça fait, semble-t-il, référence à l'exil forcé de certaines populations en Galilée qui ont dû quitter leur pays, forcé par les Assyriens, et remplacé par des étrangers qui s'installent, mélange de populations. Et là, ça dit bien les ténèbres qui s'installent. Sur tous les points de vue, vivre un exil, vivre aussi les conséquences d'une invasion. Et c'est dans ce contexte-là que le prophète écrit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Vous avez remarqué les temps des verbes? Vous avez remarqué « Le peuple a vu une grande lumière, la lumière a brillé. » Les temps au passé, est-ce que ça veut dire que ça s'est déjà passé? C'est déjà fait? Non. Au temps d'Ésaïe, ce n'est pas encore fait. Mais il écrit bel et bien au passé, ce qu'on appelle le passé prophétique, parce que c'est comme si c'était déjà fait. Dans notre contexte d'élection présidentielle, on est revenu, on entend plutôt dans des discours de personnes qui se présentent pour devenir président, une distinction entre ce qui est écrit et ce qui va se passer. Prenez par exemple le discours de la victoire à la primaire de François Fillon, où il parle d'une vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance. Ou en annonçant sa candidature, Manuel Valls qui dit « On nous a dit que la gauche n'a aucune chance, mais rien n'est écrit. » Rien n'est écrit. Et ici, on a un prophète qui écrit au passé. Parce que ce qui est écrit est écrit. Et ce qui est écrit va se passer. C'est comme si c'était déjà fait. Et pourtant, quand on pense à la réalisation de ces promesses, il y a de quoi être interpellé. Parce que ça va prendre du temps. on va attendre longtemps, longtemps, longtemps. Quand est-ce que la lumière a brillé? Est-ce qu'elle a brillé au moment où Ézéchias, le roi Ézéchias, est délivré d'une invasion assyrienne en 701? Est-ce que la lumière a brillé quand il y a le retour d'exil d'un certain nombre? Dans la perspective biblique, le véritable accomplissement de cette parole, ça se déroule quelques 700 ans plus tard. 700 ans plus tard. Écoutez comment un auteur du Nouveau Testament, Matthieu, voit l'accomplissement de cette parole. Matthieu écrit au chapitre 4, versets 12 et suivants, « Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus, c'est le centre de toute notre attention, se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. » Il cite les deux versets qu'on a entendus. Et Matthieu commente ensuite, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. » Autrement dit, la lumière brille dans les ténèbres lorsque Jésus se met en marche. Le soleil se lève dans ces territoires quand Jésus commence à enseigner. C'est là que la lumière brille et elle a brillé en la personne de Jésus. L'espérance décrite en termes de lumière qui brille dans les ténèbres, c'est lorsque Jésus se lève, va quelque part, annonce son message, un message qui annonce la venue d'un royaume. Et ce qui sous-entend royaume, qui s'est approché, sous-entend le roi. Et il est ce roi-là. Et on va en parler au verset 5 et 6, parce que c'est bien un roi qui doit venir. Mais ce n'est pas simplement la lumière qui est décrite pour parler de cette espérance. C'est aussi la joie, le fait que le peuple augmente en nombre. Verset 2, « Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. » On peut imaginer l'état d'esprit des auditeurs de Ésaïe. Vous imaginez une invasion probable, et plus que probable, il y a déjà eu les premières invasions, et elle est décrite au chapitre 8, cette armée assyrienne, comme un raz-de-marée qui emporte tout sur son passage. Vous pouvez imaginer l'état d'esprit, mais Dieu promet ici une nation nombreuse, il promet la joie, une joie comme au temps de la moisson, comme quand on partage le butin. À quoi est-ce que ça fait référence? Ben certainement, il y a des petites touches de cela, au temps d'Ézéchias par exemple. Il y a des touches de cela dans l'histoire. Mais c'est avant tout dans la révélation de Jésus et dans les fenêtres qui nous sont données sur la manière dont le royaume est venu, sera accompli. Prenez par exemple la révélation de Jean dans l'Apocalypse où il est question d'une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Et là, on se souvient de ce qu'Ésaïe a dit, de cette Galilée à la langue étrangère. C'est là que Jésus va aller. Mais c'est comme un petit avant-goût de toutes ces nations qui seront représentées dans ce royaume que Jésus est venu annoncer. Maintenant, comment est-ce qu'il faut lire cela pour nous? Comment est-ce qu'il faut penser à cette lumière? Après tout, si on se dit, d'accord, elle a brillé en la personne de Jésus au moment où il est allé dans ces régions, où il a enseigné. Mais depuis, il y a eu des morts quand même. Depuis, il y a eu des conflits, non? Est-ce que c'est cette paix sans fin qui est accomplie? On l'a dit, quand il marche quelque part, c'est la lumière qui vient, lorsqu'il accomplit des miracles, oui. Eh bien, il faut voir tout cela, il faut voir tout cela justement comme une fenêtre. Une fenêtre sur cette paix qu'il incarne par sa personne, sur cette lumière qu'il incarne par sa personne. Son royaume aussi, c'est un avant-goût d'une réalité qu'il annonce, par sa personne, par sa venue, et qui attend un plein accomplissement. Pendant les 2 à 3 années du ministère, et on en a entendu parler dans la lecture de Wissam tout à l'heure, quand on voit des gens être guéris par Jésus, de toute maladie, toutes sortes de maladies aveugles, paralytiques et autres. Quand on voit des gens qui voient leur frère ressuscité d'entre les morts, on a comme un avant-goût de ce royaume que Jésus promet, où il n'y aura plus de mort, plus de maladie, plus de larmes. Mais ce temps de ministère que Jésus a vécu, c'est un avant-goût, c'est une fenêtre dont il faut prendre la mesure, mais qui attend un plein accomplissement. Ce qui montre cela aussi, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, eh bien, ils vont continuer d'utiliser ce contraste entre ténèbres et lumière. Il y aura encore dans notre temps un contraste entre lumière et ténèbres. Prenez par exemple Éphésiens 5, où l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens où il leur dit « Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » On utilise encore ces images aujourd'hui de lumière et des ténèbres, parce qu'elles ont du sens encore aujourd'hui. Mais la tentation qu'il y avait au temps d'Ésaïe, c'est peut-être encore la nôtre. La crainte. Est-ce que Dieu peut accomplir ses promesses ? Le fait de vouloir se confier dans... Alors peut-être vous ne consultez pas des horoscopes ou des médiums pour savoir ce qui va se passer dans votre avenir, mais peut-être qu'il y a ce désir fort en nous de savoir ce qui va se passer dans notre vie, de sorte qu'on soit rassuré. Peut-être qu'il y a en nous ce désir d'avoir des alliances fortes avec tel ou tel contrat, et on se dit c'est là que je vais trouver ma sécurité. Ben, le même appel nous est fait au temps d'Ésaïe. Il y avait un appel à faire confiance à cette promesse d'une lumière qui va briller, d'un jour qui va se lever. Maintenant, comment expliquer cette espérance ? Comment l'expliquer ? Qu'est-ce qui permet la fin d'une guerre ? On peut penser à certains, peut-être, mouvements pacifistes, comme John et Yoko Lennon qui ont combattu pour la fin de la guerre au Vietnam, qui ont écrit une chanson avec Noël au centre, « Happy Christmas, War is over ». L'idée de communiquer, et c'était dans le cadre d'une campagne pour encourager la fin de la guerre. Arrêtons le combat. Et d'une certaine façon, ils ont participé à pousser les dirigeants à arrêter le combat au Vietnam, à arrêter les frais. Mais il y a eu combien de combats depuis ? Combien de luttes encore. Le président Hollande était sur le Charles de Gaulle pour faire un discours devant des officiers, devant des soldats, et il reconnaissait les avancées dans le conflit avec Daesh, tout en reconnaissant qu'après une victoire complète contre Daesh, seuls les plus naïfs peuvent croire que le monde sera moins dangereux, moins incertain dans les années à venir. Seuls les plus naïfs. Comment expliquer une telle espérance de paix ? Comment elle est possible ? Dans les versets 3 à 6, on trouve trois explications, trois quarts ou en effet. Ce n'est pas visible dans le verset 4, mais il y en a trois en effet. Et la première explication qui est donnée, c'est la suivante. Verset 3, « En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire de Madian. » Comment est-ce que Dieu décrit ce qu'il veut faire ? Eh bien, comme s'il avait besoin d'avoir quelque chose de parlant, il nous ramène dans le passé. Et il utilise, semble-t-il, il y a des allusions claires à deux moments dans l'histoire du peuple d'Israël où il y a eu une victoire retentissante, un renversement complet. Il y a l'esclavage en Égypte. Il y a, au temps de Moïse, et il y a la victoire contre Madian au temps de Gédéon. Et dans les deux cas, il y avait une oppression pesante, ça se ressentait lourdement. Dans les deux cas, Dieu a opéré un renversement dont lui seul est l'auteur. Ça se voit avec Moïse qui peut traverser la mer Rouge et toute une armée qui sera anéantie à sa poursuite. Avec Gédéon, 135 000 Madianites contre seulement quoi ? 300 du côté de Gédéon. C'est bien Dieu seul qui a remporté ces victoires. Ça dit à la fois le côté inattendu, renversant de ce que Dieu peut opérer. Et c'est avec ces rappels du passé que Dieu veut nous dire qu'il va opérer cela. Et d'une certaine façon, en la personne de Jésus et dans sa plus grande victoire à la croix et par la victoire sur la mort, il nous montre que ça se fera de manière inattendue et renversante, de manière renversante. La première explication, c'est de nous renvoyer à quelque chose d'inattendu qui s'est déjà passé, mais dont on attend encore un plus grand développement. Mais la deuxième explication donnée, c'est la destruction de tout souvenir de guerre. Pensez à la chute d'un dictateur, il y en a eu pas mal ces derniers temps. Eh bien, on a tendance à brûler des portraits, on brûle ou on renverse des statues. À certains moments, on va peut-être détruire des armes en masse, des drapeaux de l'oppresseur. Ici, on voit que toute trace de combat est détruit. Même les chaussures, si c'est pas les chaussures qui vont faire grand mal, mais c'est les chaussures qu'on détruit même. Et même les vêtements, même les habits qui ont encore les traces de sang, tout ça se détruit. Vous imaginez toutes les armes de guerre empilées, détruites par le feu. Vous imaginez toutes les traces de guerre détruites dans un énorme feu. Tout souvenir, Dieu va aller à ce point-là détruire même le souvenir, tout souvenir de guerre. Mais on a envie d'en savoir plus. Comment c'est possible ? Parce que c'est une explication et en même temps, ça ne suffit pas. Il nous faut la raison pour laquelle cette paix elle sera possible. Comment expliquer une telle espérance de paix ? Quand on pense à des prix Nobel de la paix, quand on pense aux meilleurs prix Nobel de la paix, un Martin Luther King, ou on pense à un Albert Schweitzer, ou on pense à d'autres, ils ont eu une action remarquable, mais c'était à un temps donné, à un endroit donné, c'était limité. Qui est celui qui peut permettre une paix durable ? Dans les versets 5 à 6, il y a des termes forts qui sont utilisés pour nous parler de celui qui peut permettre cette paix. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Et vous vous dites, plouf, c'est ça ? Un enfant ? Dans les conflits, c'est les enfants les plus vulnérables. C'est les enfants qu'on doit défendre, qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et pourtant, c'est bien un enfant qui nous est présenté. Mais c'est un enfant qui est décrit comme le fils. Lorsqu'un quelqu'un en Israël devenait roi, il était nommé fils au moment où il devenait roi. Celui-ci est fils dès le commencement. Et ça se confirme par la suite dans la description qui est faite de ce fils. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, merveilleux conseiller. Il y a une émission sur France Info qui s'appelle « Moi, président ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais on a des personnalités qui viennent et qui disent quelle serait leur mesure, leur première grande mesure phare pour s'ils devaient devenir président. Alors je vous en lis trois qui ont retenu mon attention. Moi, président, j'installerai un interprète des rêves à l'Élysée. Okay. Moi, président, je m'imposerai l'utilisation régulière du détecteur de mensonges. Moi, président, je rendrai accessible une alimentation de qualité au plus grand nombre. Et vous vous dites, si on doit faire appel à ses conseillers, est-ce que c'est comme ça qu'on va changer toute une nation ? On a besoin de quelqu'un qui sache de quoi il parle, qui sache comment mettre en place un bon projet. Jésus va se présenter dans le Nouveau Testament comme plus grand que Salomon. C'est la sagesse incarnée. Et le fait qu'il est plus que conseiller, merveilleux conseiller, il est Dieu puissant, C'est lui qui réalise, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout-puissant, qui réalise tous les projets qu'il entreprend. Et si on doute, on se demande si c'est une puissance qui écrase, qui est un nouveau joug, on l'entend, cet enfant est en même temps un Père éternel. Père éternel. Vous imaginez la plus belle relation entre un père et son fils. Vous imaginez quelqu'un qui écoute, qui conduit, qui est sage, qui protège, qui éduque. Ici, c'est le Père éternel qui est présenté. Celui qui est là en permanence, qui est là de toute éternité. Cet enfant roi, il est aussi présenté comme le prince de la paix, celui qui va instaurer la paix dans toutes nos guerres. Et il ne faut pas seulement penser à Daesh ou à des guerres entre deux nations. Il faut certainement penser à toutes nos guerres intérieures. Il faut certainement penser à nos guerres avec Dieu, toutes les tensions qu'on peut avoir avec Dieu. Il faut certainement penser à tout ce qui nuit dans nos relations, toutes les guerres que vous pouvez vivre au travail. On parle de scud ou de missiles qu'on a reçus dans telle parole. On parle en termes de guerre, même si c'est décalé avec la réalité. On utilise ces termes-là. Eh bien, celui-ci, le prince de la paix, promet la paix et une paix sans fin. Il s'en porte garant, revêtu par Dieu de cette autorité. Dieu lui-même, mais parce qu'il est juste, parce qu'il est droit, parce qu'il est digne de confiance, il instaurera cette paix. Et si on doute de la prophétie d'Ésaïe, il rappelle qui parle. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Et ça nous replace dans notre position. De nouveau, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette paix? On ne l'a pas vue encore. Jésus nous a donné une fenêtre sur cette paix. Et si on pense à ce qui vient juste, par exemple, après Matthieu 4, si on pense à ce qu'il a dit au sujet des ennemis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Si on pense à ce qu'il dit au sujet de tendre la joue à celui qui nous frappe. Si on pense à la manière dont il va être trahi, la manière dont il ne va pas incendier ceux qui s'en prennent à lui, renoncer aux armes, il ne va pas prononcer des imprécations contre eux, au contraire, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on pense que c'est lui dont on va se jouer, c'est lui qui sera couvert de coups, qui va avoir un fardeau, la croix à porter, quand on pense que c'est lui qui meurt de la mort d'un esclave, que c'est lui qui va vivre les ténèbres au moment de sa mort. Oui, la lumière, elle a brillé. Et le fait qu'il est venu incarner cette lumière au cœur des ténèbres les plus épaisses devrait nous dire qu'il garantira une paix éternelle, une paix sans fin, parce qu'il est bien le merveilleux conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Je vous invite à la prière. Dieu, notre Père, tu connais notre tendance à craindre ce que les autres craignent et à vivre peut-être en cherchant des appuis, en voulant garantir notre avenir d'une façon ou d'une autre, en cherchant sur un plan horizontal des solutions pour notre avenir, pour notre sécurité. Mais nous voulons prendre ces paroles et, comme au temps d'Ésaïe, avoir confiance dans cette lumière qui a brillé dans les ténèbres. Nous voulons avoir confiance en celui qui est le prince de la paix, qui est en mesure d'instaurer une paix sans fin et qui l'installera. Ce qui est écrit et il l'accomplira. Donne-nous cette foi en lui. Au nom de Jésus. Amen.